C'est très rare, en fait. C'est la première fois, je crois, de ma vie que je suis ému en parlant d'argent. Ça m'arrive jamais. On a tout besoin pour vivre, là. Mais je pense que même sur le problème de la pauvreté, il n'y a personne qui a réussi à écrire une toune. J'ai jamais réussi. Il y en a un seul, c'est Plume la traverse avec les pauvres. Mais là, je me dois de vous annoncer la nouvelle parce qu'elle est trop fantastique. Quand j'ai monté le show du refuge, j'étais très conscient qu'on le faisait sans public. Puis nous autres, c'est le public qui nous porte d'habitude. On a entre 2500 et 3000 personnes dans la salle. Et j'avais peur qu'on manque d'énergie, qu'on manque de feeling et tout ça. Évidemment, j'avais des invités extraordinaires. Je suis toujours gâté pour ça. Mais notre premier show du refuge qu'on a fait il y a 30 ans, on n'avait même pas fait tout à fait 6 000. Le deuxième, on a fait 35 000. Puis à chaque année, j'essayais de grimper ça, de changer de salle, aller chercher plus, plus, plus. Les trois dernières années, on avait battu nos records. Chaque année, on avait reçu à peu près 500 000 $. C'est énorme pour nous. Juste se rappeler, par exemple, que ça coûte 2 millions par année au refuge pour fonctionner. Je vous expliquerai un peu les services tout à l'heure. Mais là, on a terminé le décompte, finalement, parce que là, on n'avait pas l'argent de la porte. C'est comme ça que le refuge se paye. On collecte, on charge des billets. On n'avait pas ça. Alors, on a fait une levée de fonds. Et je dois vous annoncer, j'ai jamais vu ça en 30 ans d'histoire du refuge. On a dépassé le million de dollars. 1 046 800 $ pour l'instant, puis il y a des dons qui continuent à rentrer. Là-dedans, il y a plusieurs auditeurs du 98.5 ici, je le sais. Alors, juste vous remercier du fond du cœur. Ça va nous permettre, c'est évident que le refuge, c'est pas une entreprise. Alors, nous autres, aussitôt qu'on peut se mettre à l'abri un peu, on souhaite le faire. 2 millions par année, il faut le trouver. Donc, c'est pas juste le show, il faut trouver de l'argent ailleurs. Mais là, je crois qu'avec ce montant-là auquel ça, on s'attendait pas, on va pouvoir réaliser le vieux rêve de ma chum, la directrice France Labelle, qui était d'ouvrir une troisième bâtisse. C'est-à-dire qu'on a la première bâtisse qui est le refuge des jeunes, qui fait de l'intervention d'urgence au centre-ville. On a dans l'est de Montréal, proche du stade, on a les logements sociaux, une vingtaine de logements sociaux. Et puis, France a toujours voulu ouvrir une maison du refuge, où est-ce que chaque jeune aurait sa chambre, il y aurait des intervenants et tout ça, mais ça serait une maison. Donc, pas des logements sociaux, pas de l'urgence, mais une maison, c'est pour, comme elle appelle, c'est nos timinous, c'est ceux qui n'arrivent pas à se démerder dans la rue. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou ceux qui sont dans le spectre de l'autisme, etc., ils n'arrivent pas à se défendre, ils ne sont pas débrouillards du tout. Et là, je crois qu'on va pouvoir le faire. Alors, on est à la recherche d'une bâtisse en ce moment, ça, c'est grâce à vous. Merci tellement, là, je suis encore ému. Ceci dit, hein, tant qu'à parler de gens dans la rue, moi, je me pose une sérieuse question, un couvre-feu pour les itinérants. Je vous demande la question, comment on va faire ça, là? Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. Et tout de suite, on va parler à l'abbé Claude Paradis, qu'on appelle tous le prêtre des sans-abri. Bonjour, M. Paradis.
Ben, bonjour à vous, M. Bigrat, puis félicitations hein, pour la bonne nouvelle.
Ça commence bien
l'année, hein? C'est
oui,
bien,
oui,
c'est
oui. Parce que j'étais certain qu'on allait récolter un tout petit montant d'argent. Je doutais beaucoup. Alors ça, je ne m'y attendais pas pantoute. Ça me scie complètement.
Vous savez, dépendamment de la pandémie, il y a des belles choses qui sont sorties de ça. Oui. Je trouve que les gens ont été tellement généreux, là. Oui. C'est incroyable.
Puis dans des situations difficiles, là, les gens n'ont pas les mêmes moyens qu'avant, là.
Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de dire, j'ai reçu un immense cadeau hier c'est une compagnie d'excavation Tremblay-Saint-Pierre de Cowansville. Mmh. Ils m'ont donné une minivan pour pouvoir emmener plus de nourriture et plus de vêtements. Alors, les gens sont sensibles à ce phénomène maintenant. De plus en plus, je pense que c'est le bon côté de la pandémie. On prend le temps de regarder l'autre maintenant.
Oui, ça, c'est extraordinaire. Et on le sait, dans les pires horreurs, il y a toujours des bons côtés qu'il faut. Oui. Évidemment, comme humain, pour survivre, il faut aller les chercher, ces bons côtés-là.
Oui.
Alors, maintenant, comment je m'adresse à vous? Monsieur l'abbé, ça m'étonnerait que dans la rue, on vous appelle Monseigneur.
Non.
Ça ne doit pas arriver souvent, ça.
Non, on m'appelle plus... son itinérance, au lieu de m'appeler son itinérance.
Ça, c'est le fun, ça. Son itinérance. Est-ce que vous me permettez de vous appeler comme ça?
Bien sûr.
Je vais vous appeler son itinérance.
Alors, bien sûr.
Dites-moi, là, on se pose la question, comment on va faire un couvre-feu pour les itinérants? Moi, je peux vous dire, juste de mon expérience personnelle, très rapidement, ça ne tiendra pas. Il y a beaucoup de sans-abri qui ne peuvent pas se retrouver en groupe, ils ne veulent pas. Pour eux autres, c'est un énorme danger. Il y a des cas de santé mentale. Il y a plusieurs problématiques qui se problèment là. Et les ressources, comme ben moi, je peux parler pour ma paroisse, si je me permets à votre présence, c'est le refuge. On est obligé de garder une distanciation sociale. On ne peut pas en prendre plus de toute façon.
Non, ben c'est ça.
Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire appliquer ça?
Ben moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne sont pas au courant de ça. Ils pensent qu'il y a de la place pour tous les gens. Et c'est pas vrai. Et même s'il y avait de la place pour tous les gens avec une problématique en santé mentale, ils n'iront pas. Ils sont pas dans le temps, ils sont pas dans l'espace. Et moi, ma crainte, c'est que si jamais qu'on donne des contraventions aux gens de la rue, alors faute d'argent, ils ne pourront pas payer. Je souhaite qu'on leur mettra pas un dossier par-dessus ça, là.
Bien, bon, ça a toujours été ma peur. Puis évidemment, à chaque fois que je prends la parole, les policiers ont peur que je les varlope. Puis moi, je m'entends très bien que les policiers, dossier-là. Oui. Donner des tickets à quelqu'un qui n'a pas d'argent pour les payer. Vous puis moi, on va payer nos tickets. Mais lui, il ne payera pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est la journée où il veut s'en sortir, puis il est capable, puis il finit par se trouver un job, puis il réintègre un peu la société. C'est là que les maudits tickets vont y tomber sur la tête, puis ils vont peut-être le retourner dans la rue.
Écoutez, mon adjoint, c'est un ancien jeune de la rue.
Oui.
Qui s'en est sorti, qui ne consomme plus. Il est payé par le diocèse de Montréal. Et pour avoir son permis, il doit 2 000 $ en contravention non payée. Alors, il doit payer ça avant d'avoir son permis. Alors, peut-être pas les gens, là, d'un sens, hein? Ceux qui veulent s'en sortir, on les aide pas beaucoup.
Ben, c'est parce que c'est là où ils ont une adresse, à un moment donné. Donc, s'ils sont mandat, comme on dit, ben là, c'est là qu'on va les chercher. Et c'est là que les huissiers viennent présenter un bill. Puis le ticket un ticket de parking de 40$ qu'on n'a pas payé, là, tu le payes 10 ans plus tard. Ben, il est rendu à 500$ comme rien, là.
Exactement. Ah oui.
Alors, dites-moi votre itinérance. J'adore ça. c'est les gars dans la rue qui vous ont trouvé ce surnom-là?
Ben oui.
Moi, je trouve ça, il y a une tendresse là-dedans. Je trouve ça fantastique.
Ben oui. On est. Je les aime beaucoup aussi. Hein. Je vous apprends rien dans ça. Hein.
On peut pas travailler ensemble sans s'aimer, c'est certain.
Non, c'est ça.
C'est l'amour qui guide toutes ces affaires-là. C'est l'amour qui fait revenir le monde. Qui ont été mis à part. C'est comme ça. C'est le principe de base.
Moi, peu importe ce que les gens de la rue ont pu faire, j'essaie de jamais apporter un jugement. Quand on sait leur histoire, là, nous aussi, on serait là. Ils ont chacun une histoire sacrée. Il faut respecter ça.
J'ai passé une heure avec un policier de Longueuil dans mon émission ici la semaine passée. Et puis, il me disait qu'il n'a jamais vu un seul criminel qui n'avait pas une histoire d'agression, une cochonnerie dans sa jeunesse.
Oui.
Ça commence toujours avec un choc. Et moi, j'ai toujours de la peine quand je vois un kid du refuge que je pense qu'il va mieux. Puis à un moment donné, je vais te donner une conférence à une prison au Lac-Saint-Jean. Puis je reconnais le jeune là. Puis je me dis, c'est douloureux, ça. Puis je sais, puis je le vois, c'est pas un criminel, c'est pas un tough. Il doit se faire bouffer en prison, lui. C'est. Je trouve ça terrible.
Ah oui.
Dites-moi juste une petite question, puis après ça, on va prendre des appels ensemble. Vous allez rester avec moi si vous êtes d'accord. Juste ma petite question, c'est qu'il y a beaucoup de refuges qui sont au ralenti. Nous autres, on l'est à cause de la distanciation sociale. On ne fait pas les mêmes activités. On en a développé d'autres parce que là, vu que les magasins n'acceptent pas d'argent, t'as beau qu'été, qu'est-ce que tu veux, tu peux rien acheter avec. Fait qu'on donne des boîtes à lunch, mais tout tourne au ralenti là, dans le milieu communautaire puis dans l'aide aux itinérants. Est-ce que vous avez dû réduire votre staff, votre équipe?
Ben moi, je suis passé de 30 bénévoles à 7 bénévoles.
Aïe, aïe, oui.
Alors, c'est plus les mêmes rendements. Hein? On est moins de personnes qui s'en écoutent. Alors, on a moins de temps de les écouter. Alors, ça, c'est malheureux. Là. Ils ont besoin de se taire. On les écoute jamais, d'autant plus. Alors, ils ont besoin de ça. Tous les refuges, c'est au ralenti à cause de la promiscuité. à cause du bénévole, le manque de bénévoles, le manque d'effectifs. Alors, il faut se réajuster constamment. Là.
Je comprends. On va passer au travers. On passe au travers. Oui, c'est évident qu'on constate, comme n'importe quelle crise, c'est les gens les plus souffrants qui payent le plus cher. C'est tout le temps comme ça. Mais ceci dit, tout le monde paye. C'est une crise difficile pour tout le monde. On va prendre un premier appel, si vous voulez, à votre itinérance. Moi, je vais le dire toute la journée. J'adore ça. C'est Paul au bout du fil. Salut, Paul.
Salut, Dan.
Oui.
Écoute, moi, carrément, je suis plus encore de repenser à peut-être une. Je pense qu'il faudrait qu'on se conscientise comme société, puis qu'on conscientise nos gouvernements aussi à aider ces gens-là qui sont dans la rue. Comment ça se fait qu'en 2020, Chris, il y a encore du monde dans la rue au Canada? Mais là, je parle pas juste du Québec, là. Je te parle du Canada. C'est un
peu plus canadien, là. Du monde entier.
Je fais du coast to coast au Canada, puis des itinérants, là. J'en vois partout.
Okay,
comment
Paul,
ça se fait que c'est comme ça?
Paul, je vais me permettre de te répondre au mieux de ce que... c'est mon hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est détourné par les puissants, qui s'en vont dans des paradis fiscaux et tout ça, et on n'attaque pas ces problèmes-là de front. Alors, il y en a beaucoup qui s'en mettent beaucoup dans les poches, puis il n'en reste plus après ça pour nos services. De un. De deux, même si on gérait super bien nos impôts et qu'on faisait toujours du mieux qu'on peut, et qu'on pouvait financer tous les organismes et tout ce que fait l'abbé Claude Paradis, les refuges et tout ça, il resterait toujours le facteur de misère humaine. Il y a des gens qui ont eu des enfances épouvantables, puis ça se reflète plus tard, puis c'est beaucoup plus dur pour eux, parce qu'on vient pas au monde avec toutes les mêmes chances. C'est une légende urbaine, mais c'est pas vrai, là.
Mais pourquoi pas investir justement dans ces gens-là?
Justement, ben,
ça reste des êtres humains. Ça reste des êtres humains. Ça reste des gens qui pourraient contribuer. J'en connais du monde là, qui était dans la rue là, puis qui s'en sont sortis. Là.
Ben oui, mais il y en a plein. J'en rencontre tout le temps, moi.
Puis j'ai connu du monde qui ont fait affaire avec ton organisme puis qui s'en sont sortis.
Ben oui, mais moi j'en rencontre plein, mais maintenant c'était des petits gars qui ont essayé de se suicider plusieurs fois, puis maintenant c'est des hommes que je rencontre, puis ils me présentent leurs enfants. Tu penses que je suis pas bouleversé quand je les rencontre? C'est évident que j'ai une petite larme, c'est parce que c'est beau. C'est une belle histoire, il y a de l'amour, il y a des enfants, il y a des patterns qui se cassent aussi, parce que les patterns se transforment, mais...
Ce que je comprends pas, c'est que nos gouvernements ont investi là, dans la pandémie là, comme ça se peut pas. Là.
Ben,
comme ça se peut pas. C'est 348 milliards de déficit là, juste pour cette année au fédéral. Là.
Oui, mais ça,
comment ça se fait qu'un gouvernement fédéral n'est pas capable de dire, écoute, on va mettre un plan d'action puis on va investir dans ces gens-là. Ces gens-là vont nous le rendre après en travaillant, en payant leurs impôts comme tout le monde.
C'est toujours
en faisant
comme ça,
rouler l'économie.
Paul,
c'est une roue, mais on dirait qu'elle est cassée, la crise de roue.
Paul, je te comprends, puis je suis d'accord, mais ça devient une question plus générale, puis moi, ça fait 30 ans que j'en parle, puis ça fait 30 ans qu'on essaye d'éveiller les consciences du mieux qu'on peut avec ça. Là, la question est plus générale, c'est comment on va, qu'est-ce qu'on va faire avec les itinérants, parce que je comprends pas comment on va les contraindre. Je continue avec la... Merci, Paul.
Ben, pas de problème, puis...
Puis bonne règle, t'es bien fin, puis sois prudent dans ton troc, là.
C'est beau.
Merci beaucoup. Bye.
Salut, bye-bye.
Oui, mais c'est évident qu'il y a votre itinérance qui a un manque d'investissement et que on pourrait en reparler, mais on va faire ça, on va prendre une petite pause avant et on revient tout de suite après. Alors, je vous rappelle la question, couvre-feu, les itinérants, je veux bien, mais comment on va faire? Je veux pas chialer, là, je veux juste essayer de mettre une logique. C'est pas évident respecter un couvre-feu. Moi, vous, c'est une chose. L'itinérant, c'est une autre chose. Moi, je vais rester chez moi. J'ai un chez moi. Quand on n'a pas, c'est beaucoup plus complexe. Alors, j'essaie de trouver des solutions. Comment on peut faire appliquer toutes ces choses-là pour, en même temps, ralentir la transmission du virus et, en même temps, avoir le moins de dommages chez les personnes qui souffrent le plus. Je suis toujours en compagnie de l'abbé Claude Paradis, que les sans-abri surnomment son itinérance. Je trouve ça tellement joli et poétique. Je vais le répéter toute la journée. On va prendre un appel pour commencer. On est avec Claudette. Salut, Claudette.
Oui, bonjour. Moi, j'ai été 25 ans avec la Maison du Père. Alors, je les ai côtoyés beaucoup. Je les comprends. C'est des gens sensibles. J'ai jamais eu peur de marcher. Puis, ils m'ont toujours soutenue, protégée quand je sortais, des choses comme ça. Mais à côté de la Maison du Père, il y a un édifice de la commission scolaire, quoi, semblable à ça, qui a été barricadé, ça fait des années. Même, il se couchait sur le balcon le soir. Je comprends pas que la ville a pas utilisé ça, justement, qui est adéquat, qui est juste à côté de la Maison du Père. Pourquoi que c'est pas jumelé avec la Maison du Père? Et puis, l'hôpital qui est juste à côté de Saint-Hubert et René-Lévesque, qui est justement désuet. Ça fait des années. Alors, pourquoi qu'ils n'utilisent pas ces bâtisses-là, justement, pour les regrouper, pour les sortir, ça serait tous, tu sais, à même place à peu près.
Je comprends.
Il y a une paille quelque part là, avec la ville. Là.
C'est bien certain, mais il y en a toujours, puis on essaie toujours d'améliorer. Mais c'est certain que c'est un problème, où est-ce qu'on peut les mettre? Mais pour l'instant, la vraie question... Bon, l'hôpital, l'ancien hôpital Royal Vic a été assigné aux sans-abri, beaucoup, qui ont attrapé la COVID. Puis là, il commence à en avoir plus. Il n'y en avait pas au début. Ils ont été dans les derniers, bizarrement, à être infectés. Mais là, ils le sont. Mais la question, le principal problème, c'est comment... On peut les faire rentrer s'ils ne veulent pas rentrer. Est-ce que, M. Paradis, est-ce que vous croyez que on pourrait peut-être penser à des places dehors, mais où est-ce qu'il y aurait peut-être un surveillant qui n'a pas d'affaire à intervenir avec les sans-abri, sauf s'il en voit un qui est en train de geler, par exemple?
Oui, oui.
Est-ce que ça pourrait pas être une solution qui padrait un petit peu tout pour ceux qui ne veulent pas aller dans les centres? Il y en a qui ont peur des autres aussi. Il y a des raisons à ça.
Ah oui. Oh, il y en a qui ont très peur. Ils sont pas à l'aise. Oui, ça serait une des solutions, c'est sûr. Puis lorsque c'est les grands froids, hein, les gens de la rue vont marcher toute la nuit pour se réchauffer, pour pas... Alors, comment qu'on va contrôler ça? Les policiers vont les voir dans 3 ou 4 endroits différents durant toute la nuit.
Les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux aussi. Là. Il faut qu'ils fassent appliquer des consignes, mais ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas tous les arrêter non plus. Puis on s'entend qu'on arrête les gens quand on est au pénal, quand ils ont commis un crime. Mais ceux qui n'ont pas commis de crime, ils occupent l'espace public. Mais là, c'est la pandémie complexifie beaucoup les choses. Je voudrais aussi, parce qu'on parle beaucoup des hommes sans-abri, puis moi, c'est des jeunes hommes, des garçons, évidemment, mais je trouve qu'on parle souvent pas assez des femmes sans-abri. Et par exemple, il y a eu un dénombrement à Montréal, je pense qu'ils en ont raté beaucoup, parce que les femmes ne se comportent pas nécessairement pareil. Elles sont pas toutes dans les abris. Si on leur demande s'ils sont dans la rue, souvent, ils répondent non. Donc, j'ai voulu parler à Mme Anne-Gaëlle Whiteman, qui est coordonnatrice à la Rue des femmes, qui est un bel organisme que je connais. Bonjour, Mme Whiteman.
Bonjour, Dan. Ça va bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, je me demande maintenant, on se posait la question, comment faire respecter un couvre-feu pour les hommes dans la rue, mais je me demande pour les femmes, comment on va faire pour les femmes?
Là est la question. Déjà, dans nos organismes, nous, on n'est pas ni des policières, ni des gardes de sécurité. Donc, les femmes qui vont vouloir sortir pourront sortir. Hein, c'est pas notre rôle d'assurer...
Non, ça prend leur consentement pour qu'on puisse les aider. Nous autres, on n'a pas le choix, là.
Ben oui, puis même si elles veulent sortir, de toute façon, c'est pas nous, on va pas se transformer en agent de sécurité pour les en empêcher. Il y a aussi des questions de sécurité, hein. Ça nous arrive aussi des fois qu'on doive demander à une femme de quitter ou d'aller prendre une marche. Donc nous, on va continuer aussi à assurer les mesures de sécurité et de bon sens dans nos ressources, à l'intérieur même. Dehors, c'est sûr que ce soit femme ou homme, l'appel de la consommation, il n'y a pas d'heure pour ça, il n'y a pas d'heure pour vouloir aller fumer. Nous, on a un fumoir intérieur, mais il y a beaucoup de femmes qui veulent...
D'autres substances aussi.
Oui, d'autres substances, puis qui vont dans la rue.
Une addiction le dit dans son mot, dans le dictionnaire, c'est que c'est plus fort que nous.
Oh non, mais on n'est pas dans le rationnel, là. C'est autre chose. Hein. Et puis les déplacements aussi, pour aller retrouver la personne qui va éventuellement vendre le vendeur de drogue, ben il faut qu'elle se rende à Berry ou à Baudry. Donc ça va être très difficile. Celles qui ont des grosses problématiques de santé mentale, dès qu'on essaye de mettre un cadre, que ce soit avec des interdits ou même des obligations, ça marche pas du tout. Ça empire tout ce qui peut être de leur univers mental intérieur. Donc non, ça va être très difficile. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est en fait c'est le les contraventions qu'elles pourraient avoir, qui elles sont sur l'aide sociale, elles sont déjà d'une extrême grande pauvreté, oui, relationnelle, financière et tout. Donc, elles vont se ramasser avec, déjà qu'elles se ramassent avec des contraventions pour avoir jeté un mégot de cigarette par terre ou de ci ou de ça, mais là, ça va être terrible. Et aussi, depuis le mois de mars, ce dont on s'est rendu compte pour les femmes, c'est que le filet de sécurité sociale naturel, hein, du mouvement de la ville n'existe plus. Donc, les femmes se font violer, elles se font attaquer, elles se font voler, elles se font battre. Et il n'y a plus personne qui passe dans les rues déjà. On l'a vu au printemps et cet été, tellement moins de monde. Il n'y a plus personne qui, naturellement, les protège ou vont dire hey, « qu'est-ce qui se passe ?»
Mais mon Dieu, avec le couvre-feu, ça va être complètement désert en plus. Il n'y aura absolument personne.
Totalement.
Elles deviennent des proies.
Elles le sont déjà, mais là, c'est pire encore. Oui, tout à fait. Il y a le filet, ce que j'appelle de sécurité naturelle de la ville, du peuple qui vit aussi dans la rue, il est complètement inexistant. Donc, elles sont encore plus en danger, en fait, avec un couvre-feu. Et j'espère que la police et les différents paliers de gouvernement vont quand même reconnaître toutes les spécificités de cette population-là, de ces personnes-là, parce qu'on ne peut pas mettre les mêmes mesures ou en tout cas appliquer le même type d'amende ou de réprimande ou de...
Les amendes, on le sait, c'est une plaie. Je déteste me chicaner avec les policiers là-dessus, mais c'est une mesure qui est contre-productive, qui fait aucun sens.
Et puis qui coûte au fond du compte, qui coûte énormément cher à tout le système, parce que des maîtres, il faut qu'ils aillent au palais de justice, et puis qu'ils ne se présentent pas, et puis que blablabla, blablabla, bla. Moi, on reçoit un nombre effrayant d'amendes comme ça du palais de justice tous les mois qui leur rappellent que ça augmente, les frais de timbre, le papier, enfin bon, bref.
Ben oui, puis c'est assez anxiogène quand t'es déjà dans le trouble, on va le dire poliment.
Mais même
vous, parce que là, on se demande qu'est-ce que les policiers vont faire. Les policiers, de toute façon, quand je leur dis arrêtez dans les disquettes, ils disent Dan, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas les battre, on peut pas les arrêter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas d'autre. Oui, mais la solution est mauvaise. Alors, on va en trouver un autre. Mais là, il faut chercher. Mais même, il y a des escouades. Bon, il y en a une très belle qui se développe à Longueuil. Ici, on a l'escouade Emery, donc un travailleur social et un policier. Les deux s'épaulent, mais ils peuvent parler à quelqu'un qui se désorganise sans complètement que ça tourne en guerre puis qu'on soit obligé de menotter la personne. Mais ils sont pas tous formés à ça. Puis je comprends ça. Ce qu'on demande à nos policiers en premier, c'est de nous protéger. Mais
Il y en a qui ont plus, je pense, d'aptitudes naturelles à l'intervention aussi, hein, et tous les humains
sont comme ça. Il y en a qui sont plus, d'autres moins, on comprend
ça. C'est ça. Puis il y en a qui sont très très bien, puis nous les femmes les connaissent. Il y en a qu'elles préfèrent ou qu'elles préfèrent moins. Puis quand il y a des situations, des fois elles demandent qu'on appelle tel ou tel policier ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que bon, tout dépend du niveau de désorganisation et de coopération de la personne. Hein. Et puis là, vraiment la consommation qui est en ce moment dans les rues depuis quelque temps rend les personnes extrêmement violentes et agressives aussi. C'est coupé avec toutes sortes de produits.
Depuis qu'on peut fabriquer de la drogue chimiquement, c'est beaucoup moins cher et ça fait beaucoup plus de dégâts et ça fait des morts.
Mais depuis le début de la pandémie, je peux vous dire que même moi, on reconnaît pas même elles-mêmes ne se reconnaissent pas dans leurs habitudes de consommation et dans les réactions qu'elles ont. Donc c'est vraiment. Et souvent, j'en parle avec les policiers et les policières que je côtoie fréquemment. Puis on a l'impression que d'éteindre des feux tout le temps. Ça va augmenter les conflits, en fait, entre ces personnes-là et les policiers la nuit.
On parle beaucoup des policiers, mais je veux dire, ils ne sont pas seuls à devoir composer avec quelque chose qui est complexe. On va leur donner ça, là, quand même. Et puis, dire aussi que chez nous, au refuge, c'est comme chez vous. On a eu besoin de la police au refuge. C'est déjà arrivé. Et ils font des interventions impeccables. Donc, il n'y a personne qui est en guerre avec la police. C'est juste l'étiquette. Ça ne fonctionne pas. C'est une horreur. Mais vous, madame...
Oui, non, mais sauf que quand là, ça va devenir une difficulté parce qu'elles vont se mettre à avoir encore plus peur de la police si elles sortent le soir et eux vont se retrouver à devoir faire encore des réprimandes sur quelque chose qui n'était pas là avant, qui est le couvre-feu, mais sans qu'il y ait de réponse. Il n'y a pas assez de place de toute façon À Montréal pour les personnes en état d'itinérance. Il y en a qui sont barrés dans certaines ressources. La pandémie fait aussi que toutes les ressources ont dû réduire un petit peu leur offre de service, hein, parce qu'on est obligé d'appliquer les mesures
distanciation.
Les mesures sanitaires telles que recommandées par Santé publique. Hein, donc, c'est sûr qu'on a moins de personnes. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas plus de solutions.
Non, mais même vous, là, je me demande, parce que je suis en train de chercher, là, mais même vous donnez l'exemple, et puis ça, on l'a déjà eu, nous aussi, des fois, il faut sortir un jeune. Il n'y a pas beaucoup de règlements au refuge, mais il y en a un qui n'empêche pas l'autre de se reposer. Si l'autre qui est sur le bord de la mort, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas dormi, il vient ici se reposer, tu ne mènes pas un raffia de fou, parce que lui a le droit de se reposer, il est à bout, il peut mourir de fatigue, il en est là. Alors, je suppose que vous avez un petit peu la même sorte de règle, et si elle n'est pas respectée, à ce moment-là, vous devez mettre quelqu'un dehors qui se désorganise, je comprends, à un moment donné, ça devient hors de notre contrôle, et nous, on n'est pas des policiers. Donc, mais là, qu'est-ce que vous allez faire en plein couvre-feu, passer l'heure du couvre-feu?
Ah ben nous, de toute façon, nous, on a gardé à la maison Jacqueline, qui est la maison où on a 3 maisons, hein, la rue des femmes, et dont 2 maisons qui ont des lits d'urgence. Mais la maison Jacqueline, notre spécificité, ce n'est que des lits d'urgence. Donc, on a quand même gardé un certain roulement au niveau des femmes, parce que notre clientèle, ça reste quand même des femmes qui sont refusées partout ailleurs. On a quand même les cas les plus souffrants, les femmes qui sont les plus souffrantes à Montréal. Donc, rarement, elles peuvent dormir plus que 3 nuits à la maison et elles ont besoin de sortir, d'aller consommer, faire leur vie, peu importe, puis elles reviennent. Donc, on a quand même, ça voudrait dire que la plupart des hébergements ont quand même stabilisé leurs femmes. Donc, ça voudrait dire que resteraient dehors toutes les plus maganés, si on veut. Oui. Et ça, pour nous, c'était extrêmement difficile à faire parce qu'on est leur maison et puis elles aussi ont droit à un lit. Donc on a quand même gardé un certain roulement. Il y a une participation de certaines femmes aux mesures sanitaires, c'est-à-dire il y en a qui portent des masques et puis il y en a qui n'en portent pas aussi. Hein. Donc, on doit jongler au travers de tout ça. Mais une femme veut sortir après l'heure du couvre-feu, on ne peut que lui rappeler les risques et puis c'est tout. Hein.
Oui, je comprends. Vous avez quand même 3 maisons. Vous avez quand même 3 maisons avec 3 niveaux de soins différents qui sont...
Oui, c'est ça. Mais pour nous, l'itinérance, ce n'est pas une situation, c'est un état. Hein. Donc pour nous, ça relève d'un état de santé relationnelle et ça devrait relever des services de santé, en fait. Parce que pour les femmes itinérantes, et j'imagine pour les hommes et les jeunes aussi, elles sont toutes victimes de chocs post-traumatiques du développement, qu'on appelle le choc post-trauma complexe. Oui. Et ça, avant toute chose, avant, j'entendais un auditeur tout à l'heure, avant toute chose de pouvoir s'imaginer qu'elles vont réintégrer un travail, qu'elles vont réintégrer un appartement ou quoi que ce soit, il faut guérir l'état de choc post-traumatique du développement. Oui. C'est la première étape, parce que tant que ça n'est pas fait, il n'y a rien qui peut se mettre en place derrière.
Mais non, mais on ne peut pas se réparer quand on est en grand état de crise. Il faut d'abord être capable de se calmer et puis tout ça. Ce que j'en retiens peut-être, c'est que peut-être pour faire avancer un petit peu la discussion, ça serait peut-être, l'escouade Emery, j'en suis ravi, un travailleur social avec un policier, mais c'est beau, on devrait peut-être en avoir 50. Ce serait peut-être quelque chose qui serait... Oui. Parce que la personne qui se désorganise, le travailleur social négocie avec. Donc, il a moins peur que de parler à un policier. Il va être plus calme. Ceci dit, le travailleur social peut plus négocier avec la personne qui se désorganise si un policier qui le protège aussi. Donc, les deux se complètent. Alors, je nous souhaiterais ça. Je veux continuer à parler avec vous, Mme Whiteman, mais je dois prendre une pause. On va continuer au retour. Je rappelle à tout le monde que l'abbé Claude Paradis est avec nous aussi. On va discuter tous ensemble, couvre-feu pour les itinérants, comment on va faire après la pause. Alors, je rappelle notre question, un couvre-feu pour les itinérants, comment est-ce qu'on va appliquer ça? Comment on va faire? Alors, je suis toujours avec Anne-Gaëlle Whiteman, qui est coordonnatrice à la rue des femmes, et avec l'abbé Claude Paradis, son itinérance, comme les gens dans la rue l'appellent, je trouve ça super beau. Et ils sont avec nous aussi. Et gênez-vous pas tous les deux pour répondre aux questions. Quand quelqu'un dit quelque chose ou pose une question qui vous interpelle, répondez. Je vais faire le transit entre tout le monde. On a Marie au bout du téléphone. Salut Marie.
Oui, bonjour. Alors, j'ai des félicitations à faire en premier. À vous, M. Bigras, vous devriez faire un CD de votre refuge, de votre spectacle de refuge exceptionnel, je dois vous le dire.
C'est gentil, merci.
C'était magnifique, puis les profits pourraient aller justement aux gens sur la rue. Ensuite, je dois féliciter M. Paradis aussi. Bravo. Oui. Et Mme Whiteman du Centre Jacqueline, vous devriez le prendre ses coordonnées, nous l'inviter en personne, qu'elle parle de choses très réelles et très concrètes dont on n'est pas au courant. Et moi, ce pourquoi j'appelle, je vais être assez brève, là. Je trouvais qu'elle avait de très bonnes solutions en parenthèse. Moi, j'appelle parce que je dis qu'on devrait faire une pétition. M. Trudeau a reculé pour le 1 000 $ qu'il voulait généreusement donner à ceux qui revenaient, qu'on fasse une pétition à la grandeur du Québec, la même chose pour les itinérants, avec, mettons, bigraparadis.com, ou je sais pas, là, c'est une idée qui me passe par la tête, et les gens trouvent des solutions et font leurs commentaires. Et on va présenter ça au ministre, qui a une grosse force du Québec, quelque chose de concret qui est fait pour ces gens-là. C'est une vraie pitié de voir ce qui se passe avec de l'argent garoché partout alors que les gens vraiment dans le besoin n'en ont pas. Moi, je suis scandalisée de ça. Je comprends pas du tout ce qui arrive présentement. Dans le siècle d'aujourd'hui, là, c'est...
Oui, on est encore beaucoup plus individualiste, mais je dois dire, depuis le début de la crise, vous avez vu entendu ce que j'ai annoncé tantôt. Je veux dire, nous autres, c'est un record. Le refuge n'a jamais été aidé comme ça de sa vie. Mais bon, je comprends que c'est certains cas. Ceci dit, votre idée est excellente. Parce que si... je suis entièrement d'accord avec. C'est que on a comblé les besoins des gens. Je comprends qu'on va se traîner une dette, là, dans notre... On a un déficit, mais c'est pour aider des gens qui n'avaient plus de travail et qui n'avaient plus de moyens de gagner leur vie et qui seraient tous ramassés dans la rue. C'était pour éviter ça. C'était très bien qu'on ait ça.
Pour éviter les contraventions, que ce soit comme deux volets à la pétition. Un, pour trouver des solutions concrètes ensemble. Oui. Deux, pour donner des idées des fois nouvelles. Il y en a, là, comme ouvrir... j'entendais votre interlocutrice là précédemment qui disait ouvrir des maisons, ça c'est très très bien, c'est une très bonne solution. Et moi c'est ça que je dis, moi aussi j'ai toujours trouvé ça que ça coûterait pas une fortune, ils sont déjà en place les maisons. La deuxième chose, c'est contre les contraventions, j'appelais en premier pour ça qu'il y ait à la grandeur du Québec, il y ait peut-être deux sortes de volets à la pétition. Un prendrait une pétition, l'autre. Pour les comptes, je sais pas, je vous laisse ça à vous, vous avez des bonnes idées.
Ben, on pense à une amnistie générale, nous autres, puis au fait d'arrêter de donner l'étiquette, parce que c'est
contre-productif. Ah oui, contre les contraventions, puis les gens signent, disent pourquoi, puis trouver peut-être même des solutions, les amener. Puis moi, j'ai apprécié là, l'intervention de votre... de vos deux dernières madames. Là. Oh, c'est très, très bon. Alors,
merci beaucoup, Marie. Merci
Bye.
Infiniment.
Bye.
L'abbé Claude Paradis et Mme Whiteman, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est parce que l'idée générale du gouvernement fédéral était de donner au moins un petit revenu de base à ceux qui perdaient leur travail. Moi, je connais beaucoup de sans-abri qui soit qui étaient passés squeegee, etc., donner un service, etc. Mais là, d'abord, ils n'y arrivent plus. D'autres changeaient des bouteilles, ils retournaient des bouteilles consignées, des choses comme ça. Mais même quand ils réussissent à avoir une pièce ou deux dans leur poche, les dépanneurs, les magasins d'alimentation refusent l'argent cash. Ils ne prennent que des cartes. Le monde dans la rue a pas de cartes. Il y a une perte de revenus, donc. Donc, il me semble, il devrait être éligible. Qu'est-ce que vous en pensez, votre itinérance?
Ben, moi, je suis tellement d'accord. Savez-vous, le seul endroit où ils peuvent payer en argent comptant, c'est chez leur dealer. Les épiceries le font.
Ben oui, c'est malin, ça. Juste les pocheurs qui prennent l'argent en cash. Bravo.
Oui, mais les épiceries ne font pas. C'est sûr que les gars n'ont pas de carte. Voyons donc. Ils n'ont pas ça, eux.
Donc, quand on est rendu dans la rue puis qu'on crève de faim, on n'a pas de carte de crédit, c'est certain, ça.
Non.
Donc, ils seraient éligibles à un revenu qu'on pourrait, pour leur permettre de survivre. Un système, le refuge, on a fait du mieux qu'on peut. On donne des boîtes à lunch. Mais c'est pas suffisant, c'est certain. Le phénomène est beaucoup plus réalisé.
Moi, ce soir, je vais rencontrer 125 personnes de la rue. On leur donne un sac d'épicerie à chacun. C'est faux, les gens ont rien. Ils ont faim, ces gens-là.
Oui. Dites-moi, dans les gens que vous aidez, il y a des hommes, mais il y a des femmes aussi.
Oui, aussi.
Est-ce que vous voyez une différence dans les problématiques de la rue entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous voyez des tendances?
Ben, les femmes sont plus discrètes, ils sont plus, ils se mettent plus à l'écart, ils vivent une plus forte culpabilité, je pense.
Ah, je comprends.
Que les hommes.
Madame Whiteman, Madame Whiteman, je vais vous dire, moi aussi, à l'école, là, parce que j'aimerais ça qu'on travaille en amont aussi, qu'on arrête de réparer du monde poqué en aval, puis qu'on prévienne plus en amont, puis qu'on aide plus les enfants, les jeunes, à ne pas se rendre jusqu'à cette extrémité. Et puis, mais il y a évidemment les enfants, et ça c'est un gros classique, les enfants qui sont très turbulents, eux, on les repère. Parce que vu qu'ils sont turbulents, ben on se dit, OK, lui, il va avoir besoin d'aide à un moment donné. Là. Fait qu'on leur donne une attention, même si l'attention, au début, c'est de le mettre en pénitence la première fois, mais après ça, on se met à réfléchir. Ceux qui m'inquiètent, c'est toujours ceux qui passent en dessous du radar, ceux qui s'assoient en avant, comme des enfants sages, qui ne disent rien. Est-ce qu'on n'a pas le même phénomène avec les femmes parce qu'elles parlent moins? À ce moment-là, elles sont peut-être moins visibles.
Mais moi, pour répondre à ça, même à l'intérieur de nos ressources, on voit, on a les celles qui sont plus extériorisées, celles qui prennent plus de place, effectivement, comme vous dites, Dan, dans les classes dans les écoles. Mais moi, on parle souvent, nous, des invisibles qui sont à l'intérieur de nos ressources, c'est-à-dire celles, justement, qui ne font pas de vagues, qui ne font pas de demandes, qui parlent très peu. Et on peut avoir tendance à les oublier aussi, et parce que les autres demandent beaucoup plus d'attention, par exemple. Donc,
il y a des gens particulièrement doués pour ça, pour passer au travers des mailles du filet. Ils ont littéralement, c'est dans leur tactique de survie de passer au travers des mailles du filet.
Bien sûr. Et c'est important de donner de l'attention aussi à celles-là et d'aller voir. Et ce sont des femmes qui ont besoin de plus de confiance. Hein, ce sont des femmes qui ont perdu toute forme de sécurité intérieure. Donc, quand on n'a plus accès à sa propre sécurité intérieure, c'est ça qu'il faut rebâtir. On fait confiance à personne. Elles sont constamment dans le présent du choc post-traumatique. Hein, maintenant, par les neurosciences, je vous suggère un livre qui explique comment l'impact du système nerveux autonome, en fait, qui contrôle les réactions de notre corps quand on est dans un choc post-traumatique. Mm-hmm. On est au-delà de la pensée, on est au-delà du rationnel, du décisionnel.
On n'a plus le contrôle.
C'est ça. Et elles sont constamment là-dedans. Donc, mais oui, les invisibles, il faut aller au-devant parce qu'elles n'ont pas assez confiance pour aussi demander de l'aide. Quant aux pertes de revenus, oui, puis il faut savoir aussi qu'il y a des magasins qui sont doués, hein, dans des personnes qui travaillent dans des magasins qui sont doués pour arnaquer la pauvreté aussi et qui changent leur chèque d'aide sociale et qui prennent une cote de 200 ou 300 $ dessus. Donc sur un chèque de 600 et quelques dollars, imaginez. Et puis depuis le début de la pandémie, on ne fait plus les photos pour les cartes d'assurance maladie.
Ah donc, oui. Donc c'est plus facile. L'arnaque est plus facile. Et c'est les plus faciles qui se font. C'est les plus maganés qui se font avoir. Oui, c'est évident, c'est toujours comme ça.
En plus, celles qui n'ont pas, ils n'ont pas de compte en banque, la plupart des femmes en état d'itinérance.
Non, elles doivent se faire changer leur chèque quelque part, je comprends.
Ben voilà, et sans photo, il y a des banques qui refusent de changer leur chèque. Elles sont aux mains des requins, quoi.
Je comprends. Madame Whiteman, je vous remercie infiniment. Continuez votre extraordinaire travail. On a besoin de vous. Ça va être lourd pour tout le monde, comme vous qui êtes en première ligne. Je vous souhaite bonne chance. On va penser à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Anne-Gaëlle Whiteman, qui est coordonnatrice à la Rue des Femmes. Je vais remercier aussi son itinérance, comme l'appellent les gens de rue, qui est l'abbé Claude Paradis, qui vient de passer presque l'heure en entier avec nous. Merci beaucoup, monsieur.
Toujours un plaisir, dame. Toujours un plaisir.
Merci. Puis j'espère qu'on va se reparler bientôt, parce qu'il va falloir un peu se mettre tout le milieu ensemble, je crois. Il va falloir qu'on se rapproche tous pour aider mieux.
Oui, il faut. Oui, je suis entièrement d'accord.
Merci beaucoup. Passez une belle journée, puis continuez votre travail fantastique. Merci beaucoup. C'était l'abbé Claude Paradis, qui est prêtre des sans-abri. Là, on va parler de l'éléphant qui est dans la pièce dans mon émission. Je ne suis pas un animateur classique, on s'entend que je suis... Je n'étais même pas un animateur. J'étais en train d'apprendre, voir qu'est-ce que c'est. Et tout le monde sait que je sacre plus que ce que je fais ici. C'est normal. Ici, je ne suis pas chez moi. On me donne un salaire. Fait que je l'y retiens un peu. Si vous venez dans un de mes shows, tâchez votre truc, je parle comme à la maison. Alors, mais le sacrage est dans notre culture. Il n'est pas que pour dire des gros mots et se fâcher. C'est dans notre culture. Et on va parler avec M. Simon Boudreau, qui est metteur en scène tout de suite après la pause.